88.4 Radio Galère.
That comes from Tanzania.
Bonjour, 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 chères auditrices et auditeurs de Radio Galère, pour cette émission Livres et Amis du 1er mars 2023. Mars, ben oui, mars, ça devrait être le printemps et il fait glacial dans notre bonne ville. Donc, ben écoutez, l'encre de mon stylo a presque gelé dans mon sac. Heureusement, il fait bon dans le studio de Radio Galère et pour l'émission d'aujourd'hui avec Dominique et Françoise. Nous vous avons laissé un grand mois avec des rediffusions. Nous sommes bien heureuses de vous retrouver, même si c'est au coin du feu ou sous la couette. Alors, l'actualité de la semaine, c'est la suite du mouvement contre la réforme des retraites avec grève nationale et reconductible à partir du 7 mars, donc mardi 7 mars prochain, toutes et tous à la manif. Le 8 mars, notre petite radio ne sera peut-être pas en grève, mais en tout cas, si nous sommes là, nous parlerons de la Journée internationale du droit des femmes et des événements marseillais qui l'accompagnent. Donc, vive la grève, vive les femmes. Et aujourd'hui, nous lisons un roman de Cécile Ladjali, Illettrée. Cécile Ladjali est enseignante et écrivaine. C'est une franco-suisse d'une cinquantaine d'années qui a publié déjà plusieurs romans dont les thèmes sont la construction de l'identité, la communication interindividuelle, la place des individus dans la société. Et avec Illettré, qui date de 2016, elle fait le récit d'un épisode de la vie de Léo Kramps, un jeune homme de 20 ans, au moment du récit, un peu perdu dans le quotidien, en raison essentiellement de son illettrisme. La vie de Léo et les raisons de cet illettrisme, c'est ce que nous découvrons au fil des pages du roman, avec une alternance de moments de son présent et d'évocation de son passé. Il habite à Saint-Ouen, la cité Gagarine, donc en région parisienne. Et Cécile Ladjali a situé cette cité Gagarine de Saint-Ouen à quelques blocs du périphérique, là où les publicités en haut des tours éclairent la nuit et se décolorent avec le jour. En région parisienne, il y a plusieurs cités Gagarine, enfin en banlieue en fait. Et il y en avait une absolument historique à Ivry-sur-Seine, dont la démolition a fait l'objet d'un joli film, un film qui s'appelle Gagarine, qui est centré sur un adolescent, lui aussi perdu dans son quotidien, mais autrement que Léo. Nous allons donc lire Illettré. Et si vous en avez l'occasion, allez voir Gagarine, film réalisé en 2020 par Fanny Liattard. Revenons donc à Léo, notre héros illettré de Illettré de Cécile Ladjali.
C'est le petit matin blanc. Comme chaque jour, Léo se lève à 5h45 pour pointer à l'usine à 6h30. L'imprimerie se situe à quelques blocs de la cité Youri Gagarine. Érigée aux portes de Paris, à la place d'un ancien bidonville, l'énorme construction en béton est percée de fenêtres aussi resserrées que les alvéoles d'une ruche. Agglutinée à cette masse borgne, il y occupe seul un meublé au mur nu, le propriétaire interdisant que l'on y plante des clous. Dans cet espace impersonnel situé au 7e étage, rien que le minimum. Un salon faisant office de chambre quand le clic-clac est déplié. À gauche, un coin cuisine flanqué d'un muret pour séparer l'espace et sur lequel il a posé une misère dont il prend grand soin. À droite, un couloir minuscule avec une porte au bout qui ouvre sur la douche et les WC. pièce unique, sans fenêtre, carrelée de mosaïques oranges. Il n'est pas exact de dire que Léo est le seul occupant de son studio. Sur la table du salon, trône un terrarium qu'habite un iguane. La maison en verre est surmontée d'une lampe de bureau inclinée sur l'animal poikilotherme. « T'es un sacré vénard, toi, tu sais !» Avalant son plat de riz réchauffé au micro-ondes, il parle à la bête amorphe, dont les yeux globuleux se dessillent à peine en raison de la membrane des paupières qui envoile presque toujours la cornée. Accablé par une perpétuelle léthargie, le reptile montre de temps à autre une longue langue rose. Son corps vert et râpeux présente d'aimables variations colorées, tirant sur le violet au niveau de la crête et du goitre. Tenant tous les soirs le crachoir à la bestiole, qui, lorsqu'elle laisse paraître son appendice gluant, semble inviter son maître au dialogue, Léo lui déclare solennellement qu'il compte bien se mettre à manger plus sainement. « Je suis pas un poulet de batterie, pas un veau piqué aux hormones !» et de se nourrir de salades et de fruits frais pour gratifier l'animal de sa présence en lui en offrant. Mais il se contente de riz cantonné et des chips vinaigrés achetés à Madame Chen, la tenancière du Cygne d'Or, ce restaurant chinois attenant à l'usine où il déjeune avec ses collègues pour les grandes occasions. À l'usine, on l'apprécie pour son sérieux et son investissement sans faille qui lui confère un petit côté stakhanoviste. Il entra à l'imprimerie à 16 ans parce que l'école, il n'aimait pas trop. Ou plutôt, se reprend-il souvent, il ne s'y sentait pas à l'aise. Depuis 4 ans, il est conducteur de machines. Il s'occupe de l'impression des caractères, tâches sensuelles et mystérieuses ayant l'odeur des encres, cyan, magenta, jaune, noir, et le rythme assourdissant des cylindres en métal sous lesquels passent les feuilles blanches. Léo a un secret. Il cultive un intérêt particulier pour les lettres grises, les plus grandes, celles qu'on a gravées sur du bois ou du cuivre et qui conservent des vides de manière à n'être pas tout à fait noires. Bancales, incomplètes, elles lui font penser à lui. Du lit, qu'il n'a pas encore quitté, il voit les signes brillants en haut de la tour, des lettres de néon bleu. Elles vont s'éteindre avec l'arrivée du soleil et ce sera le moment de repousser les draps puis de refermer le clic-clac. Ça y est. Elle me laisse enfin tranquille avec ses grands airs, la tour. Les cygnes ont renoncé à leur arrogant éclat et se dissolvent dans le ciel laiteux. Quand le jour est franc, il ne reste plus rien à leur présomptueux bavardage. Léo pose un pied sur le linoléum, allume la lampe d'Iggy et marche jusqu'au coin cuisine pour se faire un semblant de café.
La forme des nuages, la façon dont la misère dégringole, tout alentour, l'imperceptible soulèvement des écailles subtympaniques sous les yeux d'Iggy, l'amertume du breuvage, tout lui suggère que les cygnes vont peut-être se rallumer, aujourd'hui. Normalement, il faut attendre 22 heures. L'hiver, le spectacle a lieu bien plus tôt, mais aujourd'hui, il a le sentiment que les néons bleus n'ont pas fini de narguer l'aube. Il ne bouge pas, il avale sa mélasse, il grimace. Le temps s'étire, la tasse est vide, la tour se tait. Un peu après 6 heures, une sphère orange incendie façade, pylônes, rails, grues, asphalte, arbres chétifs piquant la zac, voiture qui file. L'univers de Léo. Plus de signes ? Tant pis. Après avoir donné sa ration de salade à Iggy, il s'habille d'un jean délavé un peu trop grand pour lui, d'un t-shirt clair, hésite à éteindre et, au bout d'un moment, laisse finalement la lampe du reptile allumée, enfile ses baskets sans lacets et descend à pied les 7 étages car l'ascenseur est en panne. Dans la cage d'escalier, l'odeur des poubelles est tenace. En été, elle sent encore plus fort. Devant les boîtes aux lettres, il salue timidement Sybille, la jolie infirmière du 4e, qui lui annonce sans le regarder qu'elle part en vacances pour Pâques au Sainte-Marie-de-la-Mer. Elle aurait pu avoir un mot de plus, un geste, quelque chose, mais non. Juste des yeux fuyants et cette odeur de chèvrefeuille. Pourtant, il la connaît bien, Sybille. Elle est montée chez lui pour le soigner quand il a eu son accident à l'usine en février et qu'il a fallu lui administrer des piqûres de morphine. Sa main droite était passée sous une presse à papier le jour où il avait remplacé son collègue Bébel au lissage, alors qu'il ignorait presque tout des choses trappes de l'atelier, envahi par le bruit assourdissant des turbines et rouleaux en acier. En attendant les secours, il s'était allongé dans le bureau de Vinclair, le directeur, qui, paniqué à la vue des doigts en charpie de son employé, lui avait demandé pourquoi il avait manipulé la presse alors qu'une inscription mentionnait en lettres capitales « Attention, danger ». S'asseyant sur le coin du Chesterfield où blêmissait Léo, le philanthrope avait ajouté que tout était en règle dans sa boutique, que cette fâcheuse histoire échappait à sa responsabilité et que même les syndicats, pour une fois, n'y trouveraient rien à redire. Il restait donc parfaitement inutile d'entamer un recours. Tandis que son sang dégouttait sur l'épaisse moquette de la direction, il répondit à son patron qu'effectivement, il n'y était pour rien et que tout ça était de sa faute puisqu'il ne savait pas lire. En avouant cela, il avait eu les larmes aux yeux, mais pas à cause de la douleur. Rassuré, Vinclair s'était essuyé le front avec son revers de manche avant de sortir fumer dans la cour, sans même entendre le diagnostic de l'urgentiste qui annonçait à Léo qu'il faudrait amputer deux doigts écrasés afin d'éviter tout risque de gangrène. Voilà. Ce chapitre représente l'essentiel de la vie de Léo, son studio, son iguane, son travail à l'usine, sa voisine Sibylle, son handicap lié à l'accident dû précisément lui-même à l'illettrisme. Un autre chapitre décrit minutieusement tout ce que cet illettrisme lui interdit et les relations biaisées que toujours cet illettrisme induit avec son entourage.
Il y a donc beaucoup de choses que Léo ne peut pas faire. Lire un courrier, lire les pancartes à l'usine, ce qui lui éviterait de passer sous un rouleau compresseur, remplir sa feuille d'impôt, le problème des lettres, mais aussi celui des nombres décimaux, faire ses courses sans acheter toujours la même chose en raison des prix sur les emballages, rien que le problème des nombres à virgule cette fois, parce que les chiffres ronds et leur litanie triste, il connaît. À force de compter les marches et les morceaux de gomme sur le trottoir. Lire le nom des stations dans le métro, lire le nom des rues, lire les enseignes publicitaires, lire les sous-titres d'un film de John Ford en VO alors qu'il adore les westerns, lire le journal, écrire dans le journal de l'usine comme ont la chance de le faire ses amis syndicalistes, conduire un véhicule, lire un roman, offrir un livre car cela n'a évidemment aucun sens et qu'il ne veut pas passer pour plus bête qu'il n'est. Écrire une lettre d'amour. Pour la lecture des papiers officiels et la rédaction des documents administratifs, il demande un coup de main à la concierge.
Madame Anselme.
Madame Anselme, qui lui rend ce service parce qu'en contrepartie, il sort les poubelles à sa place et entretient le jardinier de la résidence. D'ailleurs, il adore jardiner. Depuis qu'il est proposé à cette fonction, il n'a connu qu'un seul déboire, griller un parterre de graminées, en pulvérisant un désherbant au lieu d'un engrais, n'ayant pu comprendre ce qu'il y avait décrit sur l'aérosol. Dans le métro, les choses se corsent encore et ne présentent plus les rassurants contours herbus d'une rocaille de HLM. Sous la terre, il se repère à la couleur des lignes. Sur la 6, la verte, quand il doit descendre à la station Charles de Gaulle Étoile pour voir un film avenue des Champs-Élysées, il observe les enseignes lumineuses défiler sur les quais. Lorsqu'apparaît le mot long de 6 syllabes, Charles de Gaulle Étoile, il suppose qu'il est arrivé, tout en sachant qu'il peut confondre ce mot avec un autre tout aussi long comme la motte piquée Grenelle. Depuis quelques années, une voix de sirène annonce le nom de chaque station dans les rames les plus modernes. Mais ce dispositif n'est prévu que pour les lignes 1, jaune, 2, bleu foncé, 13, bleu clair, 14, violette, ce qui le limite sérieusement dans ses pérégrinations urbaines. Pour les noms des rues, il n'a d'autre solution que de s'en remettre à la grâce du décor et à la mémoire des formes. S'il a cartographié mentalement un certain nombre de quartiers, il lui est impossible de le faire pour toute la ville. Aussi ne s'aventure-t-il que très rarement en dehors de Paris.
S'il sait écrire son nom, c'est parce que Sibylle le lui a appris au cours de la période où elle monta au 7e étage pour le soigner. Quand elle le vit si désespéré devant le spectacle de ses doigts en moins, elle lui proposa de l'aider à écrire de la main gauche. L'exercice fut peu concluant, mais la jeune femme ne devina rien sur le moment, puisqu'il était normal qu'un droitier se débrouillât aussi mal. Elle finit par se douter de quelque chose quand elle l'invita à déjeuner chez Madame Chen au Signe d'Or. Remarquant qu'il se décomposait devant le menu avant de bredouiller sa commande, « En fait, je prendrai la même chose que vous !» Elle trouva son comportement curieux. « 2 soupes piquantes avec du riz, lança-t-elle au serveur, pour le moins saisi par les manières de Léo, dont les yeux ne parcouraient pas la carte de gauche à droite, mais de haut en bas, quand il fut question d'indiquer le choix des desserts. « 2 cafés serrés, trancha-t-elle, de plus en plus perplexe. Ils étaient installés en terrasse. Le printemps réchauffait leurs nuques et leurs bras nus. Elle alluma un cigarillo en plissant légèrement les yeux, non à cause de la fumée qui s'échappait du cône de tabac brun, mais pour mieux deviner ce qui le mettait si mal à l'aise. Avec son sourire en coin, elle était sublime dans la lumière crue, tandis que son ombre sur le trottoir s'allongeait pour épouser celle de Léo. Cette projection de leur conscience sur l'asphalte les amusa. On apporta les cafés. Et il sembla à Léo que, côté de Sibylle, tout devenait possible. Son infirmité, celle qui se voyait, et l'autre, invisible, la plus honteuse, disparaissaient. L'amputation qui, ces derniers jours, s'était étendue jusqu'au paysage, arbres, horizons, blocs, lignes, disparaissaient, oui, et son principe, incision, couture, vide, laissait place à son contraire, la présence extraordinaire de cette fille dont la pulpe de l'index venait de caresser la peau de cette main abandonnée. Sibylle et Madame Anselme ont une grande importance dans la vie de Léo. Madame Anselme, donc, la concierge de l'immeuble, sait que Léo ne sait pas lire. Elle est son substitut ou son aide pour bien des actes de la vie administrative et institutionnelle. Un exemple à la limite du sérieux et du drôlatique, ce sont les élections. Dimanche 21 avril 2002.
Le pays vote. Toutes les radios commentent l'événement politique, oubliant de préciser que le temps est magnifique pour la saison et que le ciel dispensera toute la journée au regard des rêveurs un bleu d'aquarium profond. « On n'a pas eu l'hiver, pense Léo, que les logorées citoyennes visant à responsabiliser les masses laissent indifférents. D'autres événements minuscules perturbent bien davantage le cours de son existence, comme la pose récente d'une antenne parabolique sur le toit de la tour qui l'empêche de capter la bande FM. Titillant le curseur de sa radio, Léo passe d'une station à l'autre, excédé par les grésillements qui parasitent ses airs favoris.
« Well, I'm a human fly, I'm a human fly. »
La friture hertzienne présente au moins l'avantage de couvrir les injonctions à voter que scandent les journalistes.
« I say buzz, 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 and it's just because. »
En dépit de toutes ces stratégies d'évitement, qui pourraient être celles d'un mélomane, mais qui se borne aux velléités d'un auditeur recherchant l'abrutissement salutaire des sons et des rythmes, le garçon ne peut échapper à la rengaine patriotique qui s'impose malgré tout au vide dominical des cœurs et des cerveaux. Alors, s'il y allait, lui aussi, le bureau de vote est à 2 blocs, dans le préau de l'école primaire. Ce serait une première. Il ferait comme les autres, il serait comme les autres. Ça ne doit pas être bien compliqué de glisser l'enveloppe dans l'urne. Il a vu plusieurs fois des gens le faire à la télévision. Il fait beau. La musique habille sa journée d'un joli tempo. Il trouve à ses contemporains une figure touchante et à leurs gestes une élégance certainement liée à l'engagement républicain. Mais quand il se fiche devant les tables d'écoliers où sont alignés les bulletins déclinant le nom des candidats, l'envie de sourire le quitte. Il cherche des yeux Madame Anselme. La concierge a disparu. Constatant l'air éberlué du garçon, L'employé du bureau de vote exige sa carte d'identité et lui explique qu'il faut prendre un exemplaire de chaque bulletin avant de procéder à son choix dans l'isoloir. N'oubliez pas l'enveloppe. Alors, Léo tend la main, se saisit des 16 feuillets où sont imprimés en lettres capitales les noms des têtes de liste qu'il ne peut pas lire et court se cacher dans l'isoloir. Léo rejoint son meublé. L'angoisse a été telle qu'il laisse le sommeil l'envahir. Il tombe comme une masse sur le clic-clac. La journée s'étire entre trêve sans rêve et instant d'éveil propre au dimanche triste que le peu de volonté restante cherche à anéantir dans un songe qui ne vient jamais. Ce sont les cris des résidents sur la dalle qui le tirent de la poisse où il s'était réfugié. Par la fenêtre du studio, il distingue dans le jour mourant un conciliabule improvisé entre et des individus en colère qui exhortent les passants à venir les rejoindre à côté du bac à sable. Sans prêter plus d'attention au spectacle de la rue, Léo allume le téléviseur. Sur les plateaux, l'ambiance est aussi électrique qu'en bas des barres d'immeubles. Le candidat d'extrême droite se retrouve au second tour contre le président sortant. L'émotion des commentateurs et des politiques invités est palpable. Émergeant à peine d'une journée où il s'est forcé à dormir, Léo mesure encore mal les conséquences du séisme politique que la nation entière commente en direct sur toutes les chaînes. C'est plutôt amusant, jusqu'à cette analyse d'une élue communiste. La catastrophe que nous vivons est le résultat de l'abstention. J'espère que ceux qui ne sont pas allés voter prennent la pleine mesure de leur irresponsabilité et que leur engagement sera radical pour empêcher le fascisme d'être élu au second tour.
Responsabilité, irresponsabilité. En fait, Léo n'a pas voté quand il s'est isolé dans l'isoloir avec les 16 bulletins et l'enveloppe. Il a tout jeté à la poubelle. Donc, responsabilité, irresponsabilité, une pause politique pour quelques lignes et sur l'apparence physique de Léo. On va
toute
continuer.
L'harmonie des mouvements qu'arrête la pudeur, mais que renforce l'érotisme intrinsèque de celui qui ignore qu'il est beau, est sublimée par la douce ondulation brune des boucles qui encadrent le visage.
Oui, c'est la description de Léo.
Mais quand rien ne l'inquiète, son regard sans voile oblige les hommes à baisser les yeux et leur inspire le sentiment d'une défaite. Le hasard y a peint deux pupilles vertes qui aimantent les filles, lesquelles, au moment où elles y plongent, pensent à l'évidence à des choses dont lui-même n'a pas idée. Sa grâce est manifeste, mais il ne la soupçonne pas. Il reste persuadé qu'il est ridicule de ne savoir ni lire ni écrire et que les femmes ne peuvent pas s'intéresser à un garçon aussi simple que lui. Les filles, il y pense, évidemment. Il regarde leurs jambes quand elles passent dans la rue. Il sent l'odeur de leurs cheveux défaits. Il frémit à l'écoute de leur voix de piaf. Mais à la différence des garçons de son âge, qui projettent essentiellement de les coucher dans leur lit, lui voudrait se lier à elles par un tout autre moyen. Cet autre moyen, il lui est impossible de le définir. Cet autre moyen ressemble peut-être à ce qu'il faisait au temps de l'école, à ses rudiments de lecture et d'écriture qui lui furent inculqués, mais qu'il a oubliés depuis longtemps, car il est probable que Léo ait su lire et écrire à un moment. Puis ses principes si fragiles l'ont vu le quitter. Toute la séduction de Léo tient à l'ignorance du fait qu'il est en train de prendre l'autre dans ses filets, les mailles si fines de sa beauté restant invisibles à ses propres yeux. Cette naïveté accentue sa grâce.
Alors maintenant qu'on sait à quoi ressemble Léo, on va écouter la musique qu'il écoute justement. Il s'appelle Léo Cramp, enfin Cramp en français, et il a trouvé un groupe américain qui s'appelle comme lui The Cramps. Donc très souvent, comme on l'a vu tout à l'heure, il écoute I'm a Human Fly by The Cramps.
Ça y est. We'll be right back. 96 eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using dream warfare. Rock. Fly. And I don't know why, and I don't know why, but I say, rock tonight, and I say, rock it right, and I say, but I don't know why, just don't know why.
Je croyais que c'était plus long que ça, Human Fly. Donc, voilà, c'est Human Fly. Il va nous dire à un moment qu'il est en effet comme une mouche et comme une mouche avec les 76 larmes de ses 76 yeux. Puisque finalement, dans ce groupe Cramp, ce qu'il a retenu, c'est peut-être, même s'il ne comprend pas, le voisinage ou les ressemblances entre les garçons un peu désespérés de la côte ouest des États-Unis et du grunge, et puis lui, son désespoir, même s'il ne dit pas les mots, dans sa tour de la cité Gagarine. Alors, Léo n'est pas seulement une mouche humaine. Et pour le deuxième tour des élections, eh bien, cette fois, il va, comme il l'a ressenti en entendant les commentaires à la télévision, il va échapper à l'irresponsabilité et il va aller voter.
Deux mots seulement, mon Léo. Il n'y a que deux mots sur le bulletin de vote que tu dois choisir. Pour l'autre, il y en a quatre. Tu ne peux pas te tromper. Conforté par les conseils prodigués de Madame Anselme, il est retourné dans le préau de l'école le matin du second tour. Cette fois, il n'a pas oublié ses papiers d'identité. Il reconnaît même l'agent de dépouillement qui lui indique le chemin de l'isoloir. « Je sais, je suis venu il y a 15 jours, lui lance Léo sur un ton de reproche où l'agressivité se mêle à la certitude d'avoir le cœur plus transparent que du cristal de roche. Dans l'ombre bleutée que crée le rideau de nylon, il observe les deux bulletins, les deux mots dans l'enveloppe et les quatre autres dans la corbeille. « À voter !» déclame la dame au pull orange, qui lui demande ensuite de signer sur le registre. La concierge ne lui a pas expliqué qu'il fallait écrire quelque chose après avoir glissé l'enveloppe dans l'urne. Remarquant son air perdu, la dame au pull orange lui précise en soupirant. « Comme au bas de votre carte !» Il se souvient très bien du jour où il se rendit à l'antenne de police pour établir ses papiers d'identité et qu'un fonctionnaire lui suggéra d'apposer ses initiales sur le document. Mais il tint alors à faire les choses bien et calligraphia chaque lettre presque sans faute. Réitérant pareille prouesse, ses yeux font des allers-retours entre la carte et le rectangle minuscule où il doit tenir son nom. Et il écrit « Léo Cramps » de la main gauche, avec le stylo bic de l'employé. Un courant électrique lui parcourt les doigts pour se transformer, à l'échelle de tout le corps, en une sueur poisseuse. La journée passe comme un dimanche, c'est-à-dire à la vitesse d'un gastéropode traversant une nationale. Iggy a les yeux jaunes. Léo a oublié de se faire à dîner. 19h45, la nuit vient. Par la fenêtre, il voit le damier des logements envahi par la lueur bleue des télévisions. La cité Gagarine vit à l'heure des résultats. Le garçon attrape la télécommande et s'assoit sur le clic-clac, le terriarum calé sur les genoux. 20h, 5 mai 2002. La tête du nouveau président s'affiche. Son vote, avec tout ce qui lui en a coûté, a été efficace. Léo relance la musique.
I don't know why. Why I got 96 tears in my 96 eyes.
En même temps qu'il regarde les images du sauveur de la nation, auquel se superpose le reflet d'Iggy.
Voilà. Léo a donc sauvé la démocratie, enfin contribué à sauver la démocratie. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait 76 larmes dans ses 76 yeux. Ben non, c'était 96 larmes dans ses 96 yeux. Donc, il vit seul, et toujours très seul, pourrait-on dire. Lui reste son travail à l'usine et les doux souvenirs de Sibylle. C'est un petit peu ce qu'il rattache à la vie, puisque sinon, son existence est en effet limitée au mur de son studio et aux yeux pas très ouverts de l'iguane Iggy.
Le petit matin blanc est revenu. Les cygnes bleus pâlissent dans le vide lactescent. Les rues sont désertes et les gens en vacances, sauf Léo. À l'atelier d'impression, il passe sa journée à vérifier que les caractères qu'il ne comprend pas sont bien imprimés sur les couvertures des cahiers, carnets, agendas en tout genre. Dans la salle des machines, l'odeur est différente de celle propre aux autres ateliers. Ici, l'encre remplit la pièce d'une fragrance sèche, pointue. Il pressent que dans cet atelier, il se rapproche de l'écriture et de tout ce qui lui échappe. Sensualité barbare de Léo. Toute la journée, ses yeux passent sur les signes. Il les voit, mais leur géographie imaginaire ne veut rien dire. Des angles, des bosses, des creux, des lignes, des vagues, des points. Des continents entiers hors du sens, hors de lui. C'est comme ça. Il s'est habitué à ce que le monde parle une autre langue que la sienne et dispense à ses semblables des messages auxquels il n'a pas droit. Le secret des hommes qui lisent et écrivent lui a longtemps fait envie. L'absurde ballet l'a longtemps dépité. Il se dit qu'à présent il s'en moque. Durant les semaines où Sibylle monta régulièrement chez lui pour le soigner, son cœur se réchauffa un peu. Puis, à cause des mots méchants, l'idylle tourna court fin mars. Au début, tout se passait bien. Après lui avoir fait sa piqûre de morphine, elle prenait sa main gauche dans la sienne pour l'aider à tracer les lettres de son nom en capitale. Elle guidait sa main qui tenait le stylo plume. Il ne disait rien. Il ne pouvait que sentir cette main en serrer sa main. Elles ne sont pas bien belles encore, vos lettres, mais avec un peu d'entraînement, ça viendra. Léo se demandait comment il allait avouer la vérité à cet ange et quelle forme prendrait alors son mépris, ou pire encore, son ironie au moment de la révélation. Elle ne pouvait se douter de tout ce qui se jouait alors pour lui. Au terme d'une visite, elle lui demanda, avec la légèreté douloureuse des êtres bienveillants qui vous assassinent avec leur bonté, d'écrire son nom en lettres minuscules de la main gauche. Une grosse mouche bleue courait sur la table et elle vit dans ses yeux les mêmes larmes de rage que celles qui avaient coulé dans le bureau de Winkler le jour de l'accident. Elle comprit. Il quitta la table et dit, en regardant par la fenêtre pour ne voir que les cygnes éteints en haut de la tour, qu'il n'avait plus besoin d'elle, que la douleur était passée, qu'il n'était plus utile qu'elle vienne. Léo avait parfois cette violence calamiteuse des êtres qui ont honte.
Oui, la honte, ben finalement, il va l'avouer à Sibylle un autre jour. Et c'est peut-être ce qui va lui permettre de communiquer un petit peu plus avec elle. Il la rencontre, comme la fois précédente, aux boîtes à lettres. « Pardon pour l'autre jour, j'avais honte. Cela n'a aucune importance, c'est moi qui aurais dû être plus maligne. Mais vous étiez merveilleuse, il faudra que je vous rende votre stylo plume. » Je vous le laisse. Je peux ? Ben oui, j'en ai acheté un autre et puis qui sait, un jour il vous servira. Sibylle embrasse Léo sur la joue. Sa peau sent le savon et la jolie voisine a une fille de 6 ans. C'est à cet âge-là que lui, il a perdu ses parents. À cet âge que tout est devenu affreusement angoissant et continue de l'être maintenant, jusqu'à ses rendez-vous improvisés dans un hall d'immeuble, puisqu'il lui paraît indispensable de remédier à une grosse bévue ayant empoisonné sa conscience durant des semaines. Sybille pense encore à Léo. D'ailleurs, ces derniers temps, elle n'est capable que de cela, penser à Léo. Elle termine la vaisselle le soir. Ses mains passent sur les assiettes en porcelaine blanche qui ont servi pour le dîner pris avec sa fille Violette. Les deux disques disparaissent au fond de l'évier rempli d'eau savonneuse. Elle observe la grande tour par la fenêtre de la cuisine. Les lettres bleues sont allumées. Léo les voit, lui aussi, de sa fenêtre. Dans l'eau chaude et la perspective diluée, les mains de Sybille se tordent au niveau des poignets. La jeune femme ne reconnaît pas cette partie immergée de son corps. Ça lui fait une étrange surprise. Elle croit alors que tout peut arriver. Les mains, la forme des mains, l'absence de doigts, la présence des doigts. Oui, tout peut arriver. La sonnette va peut-être retentir, Léo fait irruption. Elle s'empressera alors de ressortir les assiettes de la vasque fumante, les séchera bien vite pour les replacer sur la table encore couverte de miettes et servir un reste de tarte au quetsch à son invité. Donc Léo comme Sybille, Sybille comme Léo, à des degrés divers, fantasmes l'un pour l'autre, fantasmes l'un de l'autre. Et l'autrice les laisse à leurs douces pensées et choisit ce moment-là du récit pour expliquer ce qui a justement fracturé le passé de Léo quand il avait 6 ans.
Que s'est-il donc passé l'année des 6 ans de Léo ? Quel événement essentiel pourrait expliquer son sentiment d'avoir oublié d'embarquer sur l'arche avant le déluge ? Est-ce le souvenir des parents évaporés l'année où il entra au CP, qui le tire ainsi vers les profondeurs abyssales ? Dans ces lieux, sans clarté, les bêtes sont aveugles et sourdes. Elles évoluent dans le noir et n'ont même pas l'idée de la lumière. Vendeur de surplus militaire, Lucille et Marius étaient des parents étranges. Ils vivaient avec leur fils dans un mobilhome, allant de village en village pour vendre leurs marchandises sur les marchés. À bord du mobilhome, il y avait aussi Mémé Adélaïde, la mère de Lucille. C'était elle surtout qui s'occupait du petit, parce que les parents, eux, n'avaient pas trop le temps. C'est ce qu'ils disaient. Il fallait repasser les treillis, amidonner les chemises, recoudre des écussons récalcitrants, cirer des rangers et enfin établir la comptabilité qui était d'autant plus compliquée que la besogne ne remplissait pas vraiment la caisse. Une fois par semaine, Lucille cuisinait un gâteau aux meringues pour son fils. Telle était sa façon de lui dire qu'elle l'aimait. Marius se contentait de raconter des histoires invraisemblables à Léo avant qu'il s'endorme. Le lundi seulement, puisque lundi il n'y avait jamais marché, dans les contes qu'il improvisait pour son fils, toujours il était question de pays inconnus, peuplés de bêtes merveilleuses, d'explorateurs magnifiques, de trésors cachés. Et puis, le matin de Noël, ce sont Lucille et Marius qui sont partis à la chasse au trésor. Inquiétés par la police, ils avaient fui, le fisc ayant trouvé au compte de Marius nombre d'incohérences que seuls les trafics interlopes pouvaient justifier. Et puis, la veille de leur fuite, les deux larrons ne fournirent à Adélaïde aucun argument visant à justifier leur désertion. Ils mirent le mobilhome à sac et embarquèrent tout ce qu'ils pouvaient fourrer dans le coffre de leur vieille Volvo. Ils omirent de préciser à la vieille où ils iraient se terrer jusqu'à ce que les choses se calment, décrétant que c'était pour les protéger, elle et le petit. Ils vendirent à un centre de paintball leur stock de nip kaki. Lorsque la vieille dame se retrouva seule avec Léo, au sein d'un décor en vrac plein de vide, il est sidérant comme la vacance recouvre parfois des airs de chaos. Elle le serra fort dans ses bras et la pression de sa poitrine contre le petit corps secoué de sanglots lui permit de dissimuler un hoquet de rage. « Ils reviendront quand ils auront trouvé ce qu'ils cherchent, mon ange chéri. Mais il cherche quoi ? Un trésor ? Un trésor, sans doute. Le mensonge apaisa l'enfant. Avec l'argent de sa retraite, la grand-mère loua un appartement minuscule porte de Saint-Ouen, juste à côté du cimetière, et inscrivit son petit-fils à l'école. Léo avait 6 ans et ne savait pas ce qu'était une classe, la vie nomade ne prédisposant pas à ce genre d'organisation sociale. La maîtresse était gentille, mais complètement dépassée. Elle ne sut rassurer son nouvel élève, qui ne connaissait rien à l'usage du stylo, prenait le tableau noir pour une porte fermée, ignorait tout ce qu'un livre pouvait contenir. L'école et ses petites cérémonies quotidiennes terrifiaient le garçon. Habitué depuis la maternelle à tous ces exercices bizarres, ses petits camarades restaient sagement assis à calligraphier quand Léo avait l'impression de se dissoudre. La chaise se dérobait sous ses fesses, le cahier s'enfonçait dans le bois du pupitre, le stylo plume lui brûlait les doigts, l'odeur de l'encre lui portait au cœur. Il ne comprenait pas pourquoi il fallait se donner tant de mal pour des choses aussi insignifiantes, alors qu'il lui avait été impossible de répondre à la question essentielle qu'avait posée la maîtresse le jour de la rentrée : « Que font vos parents dans la vie ?» Quand son tour était venu de parler, il avait dit que les siens ne faisaient rien, et puisque tous les élèves avaient ri, il avait ajouté « Ils sont partis en voyage ». La classe s'était tue devant l'étrange tour qu'avait pris la conversation improvisée par ce gosse qui d'ordinaire ne soufflait mot, jusqu'à ce qu'une fillette rousse se lève et scande les 12 syllabes d'un alexandrin monstrueux. « Tu sais, quand on dit ça, c'est que les gens sont morts. » Léo n'avait pas relevé. Il s'était contenté de regarder le cahier à carreaux posé sur le pupitre, où il n'avait encore rien écrit. À partir de ce jour, l'écriture comme la lecture devinrent presque impossibles, car elles restaient liées à l'idée de la mort de ses parents. Mémé Adélaïde fut rapidement convoquée par l'institutrice, qui s'inquiétait du comportement de Léo. « Il a perdu ses parents, n'est-ce pas ?»« En quelque sorte. Ils ne sont pas morts. » Ils sont partis sans dire où ils allaient. Depuis, je m'occupe seule de mon petit-fils. Ce n'est pas facile. Mais quel est le problème avec lui ? Léo est un enfant adorable, toujours très sage, presque trop, mais il présente de sérieuses difficultés dans l'écriture des lettres et leur déchiffrage. Nous avons commencé la lecture syllabique en octobre. Il se raidit et confond tout. Il essaye alors ? Oui, mais il n'y arrive pas vraiment. Quelqu'un l'épaule à la maison ? « Madame, j'ai été dentelière toute ma vie. Je peux coudre des rubans, réaliser de la belle ouvrage. Mais pour ce qui est de lire ou d'écrire, je ne sais pas. » Et quand ils étaient encore là, ses parents passaient plus de temps à graisser l'écran d'arrêt qu'à lui faire la lecture. L'écran d'arrêt ? Il vendait des fournitures militaires et vivait dans un mobil-home. À la seconde de la révélation, le visage de l'institutrice s'éclaira.
Oui, enfin, le visage, c'est clair, mais évidemment, ce n'est pas véritablement une solution. Le petit Léo passe donc de classe en classe, bon an, mal an, lisant et graphiant avec peine ou pas du tout. À force de courage et de ténacité, il parvint à écrire certains mots fauves, à les dompter pour les retenir dans les mailles d'une syntaxe très simplifiée. Avec les livres, il n'était pas plus dextre, son attention ne pouvant se fixer que sur quelques lignes et pas quelques pages, à condition que la langue de l'auteur ne fût pas trop complexe. Aussi déchiffrait-il des albums pour petits alors qu'il approchait l'âge d'entrée au collège. Il restait pourtant le camarade que tout le monde aimait, les institutrices ne se plaignaient jamais de lui, et quand dans la cour de récréation elle l'évoquait, elle se contentait de soupirer en cœur. Elle s'accordait toute à reconnaître qu'il était calme, gentil, et qu'il y avait un terrain sur lequel il était imbattable, le théâtre. Connaissant les rôles par cœur, Léo était Scapin, Robinson, Oliver Twist. Il jouait devant les familles sidérées aux fêtes de l'école, et la parade fit longtemps illusion. Si bien qu'à 11 ans, le jeune Léo, plein de grâce et de mots, passa en 6e avec les indulgences de l'équipe pédagogique. À 12 ans, Léo fit même quelques progrès. Il pouvait rédiger un texte court, former des phrases simples, lesquelles restaient truffées de fautes d'orthographe. Quant à la lecture, ayant progressé avec le déchiffrage, il put enfin pénétrer le sens de certaines narrations, mais il sortait de l'exercice harassé. Les professeurs observaient toujours ce décalage entre son indiscutable capacité à formuler à l'oral et son empêchement face aux mots, à lire et à écrire. Quand il s'asseyait devant sa feuille blanche, il avait l'impression qu'autour de lui, tout s'effaçait jusqu'à lui-même. Il ne se souvenait plus qu'à 6 ans, alors que les premiers rudiments de la lecture et de l'écriture se mettaient en place chez ses camarades, Mémé Adélaïde lui avait dit, le matin de Noël, que ses parents étaient partis. Ses robinsonnades n'ayant de sens que pour lui, il ne confia jamais ses peurs au professeur qui, incapable de cerner le jeune garçon, lui firent quitter le collège à 13 ans pour un CAP de sérigraphie industrielle. L'année de son entrée à l'usine, les choses allèrent très vite. N'étant plus confronté à l'écrit, ni au lu, à l'écriture, ni à la lecture, Léo oublia. Les rudiments de grammaire qu'il avait acquis durant sa scolarité le quittèrent en quelques mois. Dispensé des exercices quotidiens proposés par ses maîtres, il se rendit compte un jour qu'il ne comprenait plus ce qu'il y avait d'inscrit sur les murs de la ville. Au début, cela l'amusa, avant de l'inquiéter, puis de le paniquer, franchement. Mais que faire ? C'était comme si une main invisible l'avait poussé en dehors du monde des hommes normaux, desquels il était désormais séparé par une vitre épaisse qui filtrait les sons et la lumière. Installé dans son caisson de décompression, il eut la sensation d'être cerné par un océan hostile qui menaçait de le broyer ou de le faire imploser, en diffusant des milliers de bulles d'air à travers ses artères. Tapis au sein de cette cage invisible, il demeurait loin des autres tout en étant si près. Il était un peu comme ces personnes qui voient les couleurs sans être capables de les reconnaître. Voilà, c'est fini, un peu bêtement, comme ça, paraît-il. C'est fini pour Léo, ou du moins pour la lecture et l'écriture pour Léo. Et c'est tellement fini que même au moment du service national, alors que peut-être on aurait pu le récupérer, eh bien non, il reste irrécupérable.
En novembre, Léo est convoqué pour sa journée d'appel. Il a reçu une injonction du ministère des Armées qui le somme de se présenter sous les drapeaux. Avant la fin du mois en cours, a précisé Madame Anselme en lui lisant le courrier. Pas de chance. La caserne qu'il doit intégrer se trouve à Querqueville, commune de sa naissance. Adélaïde, ayant oublié d'effectuer le changement d'adresse opportun qui lui aurait permis de rejoindre le fort de Vincennes par la ligne 1, la jaune, avec la voix. Il prend le train à l'aube pour arriver en avance. Il voit la mer, crachin du ciel, grésillement des voix. Gare de Cherbourg, descendre pour Querqueville. Putain, c'est gris. Après le déjeuner au réfectoire, rien mangé, seulement fourré dans ses poches des biscuits sous vide prévus pour le dessert, il suit les appelés jusqu'à la baraque aménagée pour la composition. Il s'agit d'un test écrit de français et de calcul. Quand on lui distribue le questionnaire, il est pris de vertige. Il ne comprend évidemment rien aux phrases qui couvrent les pages agrafées entre elles. Rien à l'exercice de mathématiques proposé aux jeunes recrues qui ont toutes commencé à écrire, à l'exception de 2 ou 3 individus devant se trouver dans la même situation que lui. L'épreuve dure 1 heure. Il observe le spectacle navrant d'une danse macabre, celle des signes morts qui forment une ronde cruelle comme celle qu'inventent les enfants méchants dans les cours d'école pour humilier un camarade. Les mots chenapans sont pleins d'acrimonie acide. Ils brûlent les pupilles de Léo qui se retient de pleurer. Face aux maths, il abandonne immédiatement la partie, préférant garder ses forces pour l'exercice d'écriture. Il fore les strates les plus profondes de sa mémoire pour en exhumer les mots oubliés. L'exercice est harassant et sans aucun rapport avec la rédaction proposée. Un sujet de composition sur le rapport à soi, de soi à l'autorité, mais il parvient à tracer de la main gauche une suite de lettres capitales sur les lignes qui strient le vide de la feuille. Oui, jusqu'à l'âge de 13 ans, lire, écrire et compter ont toujours été difficiles pour moi. Et puis ensuite, à l'usine, j'ai tout oublié. Jeune homme, vous êtes réformé, mais je suis apte. L'illettrisme ne compte pas en effet pour une inaptitude. Mais on m'a rapporté que vous étiez handicapé de la main droite. Un accident à l'usine. Pourquoi n'en avez-vous pas informé le ministère ? Il fallait leur écrire. Je vois. Alors comprenez que votre handicap physique, venant s'additionner à vos soucis de déchiffrage, me conduit à vous déclarer inapte. Rentrez chez vous. J'en connais qui aimeraient bien être à votre place. Qu'en sait-il, cet idiot ? Léo donnerait n'importe quoi pour être comme les autres. L'humiliation est cuisante. Il maudit son exemption.
Il maudit son exemption parce qu'en effet, elle souligne qu'il n'est pas comme les autres. Il ne peut déchiffrer les tableaux d'offres d'emploi à la NPE. Et il existe toujours un point d'achoppement, un écueil sur lequel la volonté se brise. À Querqueville, un récif invisible vient d'éventrer l'acier des cales où il stockait des tonnes de courage pour former une abominable marée noire, un océan de boue et de ressentiment à l'égard du monde qui ne prévoit rien, pour empêcher les types comme lui de se prendre les ailes dans le goudron et de crever de honte. Alors, il quitte le bureau de l'adjudant qui l'a exempté, après avoir fait le salut militaire, comme il l'a vu faire à son arrivée. Les doigts serrés, la paume bien à plat, cette paume d'où pendent, d'où dardent quelques petits moignons. Voilà, donc une fois de plus, finalement, Léo a été repoussé. Il a été repoussé de l'école contre son gré, il a été repoussé de l'usine quelque part, puisque en fait il est toujours limité au même atelier, à la même tâche, et de façon générale il est repoussé de la société puisque il n'y a pas de place, il n'a pas véritablement de possibilité de s'inclure dans la société. Cette espèce d'incapacité sociale, l'autrice Cécile Ladjali, c'est ce qu'elle constate pour un certain nombre de ses personnages dans ce roman et dans d'autres. Toutefois, Léo, on va le quitter sur une note un petit peu moins sombre. On va voir qu'il arrive par ailleurs à s'inclure dans la vie de gens autour de lui, par exemple pour l'anniversaire de Violette, la fille de Sibylle.
Pour son anniversaire, Léo a offert à Violette une maison de poupées et des papillotes en chocolat. En fait, il ne s'agit pas d'une maison à proprement parler, mais de plusieurs habitations, car le jouet est un gros cube en plastique de 1 mètre sur 80 cm, coupé sur la tranche comme le corps d'un mannequin de cire, exhibant l'intérieur d'une dizaine de logements. Ça fait penser à Gagarine, j'ai trouvé ça amusant. Violette saute au cou du garçon, puis s'accroupit devant le parallépipède impudique pour mieux reluquer l'intérieur des appartements. « Tu vois, maman, quand ma main est dans la maison et qu'elle se cogne au mur, je pense à Alice. J'aimerais bien être minuscule pour dormir dans le tout petit lit rose. »« Ce n'est pas drôle d'être minuscule. Iggy pourrait te manger. »« Au contraire, ce serait amusant. Je pourrais me cacher. Tu me trouverais pas. » J'irai plus à l'école. Et où te cacherais-tu ? Là, derrière la pendule. Et toi, Léo ? Dans la cheminée. Mais tu brûlerais ? Non, parce que ce n'est pas du vrai feu. Tout est faux dans cette maison. C'est ça qui est bien. Alors toi, tu préfères quand tout est faux ? C'est bizarre. Maman me dit que tu ne mens jamais et que c'est pour ça qu'elle t'aime bien. Vas-tu te taire, Violette ? Non, je ne me tairai pas. Je dois dire à Léo ce que tu me répètes tous les soirs quand tu me lis mon histoire, juste avant d'éteindre la lumière.
Elle aime le chuchotement de la pellicule argentée aux extrémités frangées quand elle ouvre la friandise. Ce qu'il y a de plus délicieux encore que de la laisser fondre sous la langue, c'est quand sa mère lui lit l'adage écrit sur l'autre petit papier, le blanc légèrement glacé, glissé sous le premier emballage. L'enfant déshabille les chocolats qu'elle replace dans le sachet transparent, pour ne garder que les papiers ornés de légendes. Ensuite, elle demande à Léo d'en choisir quelques-uns. « Pas trop, précise-t-elle, pour qu'il en reste quand même un peu pour moi. » Léo pioche 3 billets. « Alors, vas-y, lis !» exige la diablesse. Sibyl se saisit prestement des morceaux de prose glacée et déclame. Les maximes ont le goût d'un bonbon au poivre et l'intention de Violette, la douceur du poil à gratter. « Pourquoi c'est pas Léo qui raconte les papillotes? Je lui ai donné à lui, il devait les lire. » En cet instant, bien sûr, il a détesté la vilaine petite fille qu'il avait défiée. Mais Violette ignore sa honte. Comme tous les enfants de son âge, elle a un peu le génie du mal et une propension exquise à supputer chez l'autre le point aveugle. Violette est partie se coucher, en pestant, les poches bourrées de papillotes. Sibyl propose à Léo de rester encore un peu pour regarder un téléfilm. Elle passe ses journées à soigner ceux qui ont mal. Elle a bien envie d'échapper au monde, la jolie infirmière. Et ce soir, elle voudrait peut-être que Léo s'occupe d'elle. La conséquence de son empathie pour la gente souffrante est le harassement physique qui l'anéantit lorsqu'elle parvient à la fin d'une journée. Une fois le cycle de garde achevé à l'hôpital, elle rejoint son appartement, en dehors de la conscience de ce qui se passe autour d'elle. Dans la rue, elle avance avec une légère claudication que seules Violette et Léo ont remarquée tant elle était nue. La douleur des autres lui a été comme inoculée dans le corps, à dose infinitésimale. Et puis, elle retrouve la cité Gagarine. Elle laisse tomber tout dans son fauteuil. Et elle demande à Violette de lui montrer ses devoirs. Ce soir-là, elle demande à Léo de s'asseoir avec elle dans le canapé. Ah, Léo, finalement, lui propose de la masser, car il l'a entendue. C'est fou comme vous faites ça bien. Ben oui, j'ai toujours su. Vous avez vraiment un don. Continuez. Mais oui, je suis à vos ordres. Voilà, donc Léo est aux ordres de Sibyl. Nous ne saurons pas trop jusqu'où iront les ordres de Sibyl. Mais la vie de Léo, finalement, ne prend pas le virage positif qu'on aurait pu penser. On va continuer avec les Cramps et cette fois-ci, ça sera Garbage Man. Est-ce que c'est l'éboueur ou l'homme qui est comme une poubelle? À bientôt!
Bonne journée!